La Société des Amis du Vieux Saint-Antonin. La Révolution française, 1789 à Saint-Antonin. Une conférence de ce 2 septembre 2017. Thierry Leroy, Laure Mézières, professeur d'histoire au collège, et Jean-Pierre Amalric.
Vous êtes venu pour entendre parler de la Révolution française, le jour où Saint-Antonin fête sa fête votive annuelle, et elle a lieu, elle se déroule, mais elle comprend cette conférence. Pour cette conférence, qui est la dernière que nous proposons, les amis du vieux Saint-Antonin, cet été, nous avons choisi de présenter un duo d'orateurs. D'abord parce que c'est la loi maintenant de respecter en toutes circonstances la parité. Donc c'est une des raisons. Mais l'autre, c'est que celle qui a proposé en premier de faire une conférence sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est Laure Mézières, que vous connaissez peut-être pas tous encore, puisqu'elle est arrivée au collège il y a seulement 3 ans, à peine 3 ans. Elle est professeure d'histoire au collège, très entreprenante. Elle racontera peut-être elle-même ce qu'elle a fait dans le débat, déjà. Mais elle a rejoint notre Société des Amis et s'intéresse à l'histoire moderne. Et c'est ce qui a fait qu'elle a rencontré sur ce sujet Jean-Pierre Amalric, qui est un professeur de l'Université de Toulouse, émérite, qui est lui aussi spécialiste d'histoire moderne et qui nous a accompagnés, vous le savez tous, depuis déjà bien longtemps dans les conférences que nous faisons. Il est même, je dirais, l'auteur de l'idée de ces conférences, il y a déjà 2 ou 3 ans de ça. Voilà, donc je vais leur laisser la parole. C'est Laure qui a préparé l'essentiel de la conférence, mais c'est Jean-Pierre qui va l'introduire, s'il le veut bien.
Merci, Monsieur le Président, et merci de nous avoir associés. Moi, je suis très heureux que Saint-Antonin soit enfin pourvu d'une historienne de qualité, ça, il y en a une autre, mais qui est soucieuse de s'intéresser à l'histoire locale et régionale et de diffuser autour d'elle, à ses élèves, j'espère quand même, à vos élèves, oui, mais aussi à un public d'élèves un peu montés en graines, comme le public d'aujourd'hui, le savoir qu'elle peut collecter. Alors, elle vous expliquera que l'intérêt qu'elle a ressenti pour la Révolution procède de travaux anciens et non publiés, apparemment, de Georges Julien, la figure emblématique qui a présidé pendant de longues années la Société des Amis. Et je pense que c'est intéressant, effectivement, de diffuser les travaux, les résultats auxquels était parvenu ce chercheur, car c'était un vrai chercheur, je l'avais connu, on lui a rendu hommage d'ailleurs cette même année. Et c'était un chercheur qui se souciait de s'appuyer sur les documents, et en particulier sur les documents des archives locales de Saint-Antonin, qui à l'époque étaient conservés ici même et qui ont été, je le rappelle, transférés maintenant aux archives départementales à Montauban. Alors, nous allons parler de la Révolution à Saint-Antonin, et c'est Laure Mézières qui va faire le point sur ce qu'elle retient donc des travaux de Georges Julien. Je voudrais simplement, en préambule, situer l'état de la ville dans les années qui précèdent la Révolution, sur 2 ou 3 aspects qui me semblent importants et sans prétendre d'ailleurs être exhaustif. Je rappelle que le premier point, je renvoie à la conférence qui avait été donnée l'an dernier par Jean-Baptiste Faul sur le siège de Saint-Antonin. Je rappelle que Saint-Antonin se définit à l'époque moderne d'abord comme une ville protestante. Cette ville protestante, comme tous les autres centres huguenots du royaume, a été convertie de force en 1685, un peu plus d'un siècle avant la Révolution, donc, et le protestantisme n'y est demeuré que comme une réalité familiale, plus ou moins clandestine, pendant longtemps, dont les cultes se tenaient au désert, comme on disait. Le désert ici, apparemment, c'était le cirque de Nibouzou, d'après les quelques témoignages que l'on a, et légalement, les protestants ne refont surface à Saint-Antonin, comme ailleurs dans le royaume de France, que 2 ans avant la Révolution, en 1787, avec l'édit de tolérance de Louis XVI. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir si, lorsque va éclater la Révolution, et le clivage qui a si longtemps distingué et même violemment opposé au temps des guerres de religion les protestants et les catholiques, ce clivage est perceptible dans l'espace public. La question mérite d'autant plus d'être posée dans le cas de Saint-Antonin qu'on sait que dans des villes voisines, ce fut le cas. Et en particulier, je citerai l'exemple de Caussade. Nous avons parmi nous Madame Catherine Langlais, qui vient de terminer un travail important qui embrasse notamment la période de la Révolution à Caussade et qui montre à quel point, à Caussade justement, l'opposition protestant-catholique ressurgit avec une très grande force pendant la Révolution. On peut même dire que Caussade passe vraiment à ce moment-là sous la coupe de la bourgeoisie protestante de la ville. Et avec toutes les conséquences qui en découlent. En va-t-il de même à Saint-Antonin ? Nous aurons à nous poser la question. Ce n'est pas évident, ce qui prouverait que les schémas binaires prédéterminés ne sont pas toujours des schémas opérants et que, en somme, les sociétés locales, les sociétés réelles, peuvent se comporter différemment dans un contexte analogue. Ce qui serait, on arrive à cette conclusion, finalement une conclusion assez encourageante qui montre qu'on n'obéit pas forcément à des mécanismes communautaires, entre guillemets. Je pose la question. La deuxième question à évoquer, peut-être très brièvement, c'est le rapport de la société urbaine de Saint-Antonin, car j'insiste, nous avons affaire non pas une société rurale, villageoise, mais bien une société urbaine, à la culture en général et, je dirais, à la culture nationale de manière plus précise. Eh bien, je pense que Saint-Antonin, à ce moment-là, est une ville qui, au cours du siècle, au cours du XVIIIe siècle, s'est ouverte au courant de culture et que cette fraction que l'on peut appeler les élites de la société y participe. On en a la meilleure preuve dans l'existence, la création d'une société politique et littéraire de Saint-Antonin qui voit le jour en 1779, donc 10 ans avant la Révolution, et donc on conserve les statuts dans les archives d'ailleurs dont je parlais. Cette société dit dans son article 1 qu'elle sera composée, qu'elle ne sera composée que des principaux citoyens de cette ville. Et on voit bien là, si vous voulez, ce caractère d'affirmation d'une élite qui veut se retrouver entre elles pour échanger autour des choses de l'esprit. Le règlement que définissent ces statuts précise que cette société se réunira quotidiennement. Donc la séance, est-il dit, s'ouvrira tous les jours à midi et se terminera au plus tard à 10h30 du soir. Il y a donc là un lieu de sociabilité où les élites peuvent se retrouver quotidiennement. Pourquoi faire ? Eh bien, essentiellement pour s'informer et éventuellement pour causer. L'article 5 nous dit par exemple que la société aura 2 trésoriers qui, au moyen des fonds qu'ils percevront, et on sait par ailleurs que ces fonds, c'est les cotisations des membres, auront la complaisance de faire venir les ouvrages périodiques qui leur seront indiqués. Et d'autres articles réglementent les prêts qui sont faits aux sociétaires. Donc nous avons, vous le voyez, dans la période qui précède la Révolution, une ouverture à tous les courants d'information, à tous les tous les organes d'information qui peuvent circuler en France et qui vont imbiber, en quelque sorte, le débat local. Je crois que ce point est important. Et je terminerai peut-être par quelques considérations administratives et spatiales. Il est de bon ton de rappeler, à répétition, que Saint-Antonin est en Rouergue. D'ailleurs, j'ai vu des plaques à l'entrée de la ville qui mettent Saint-Antonin de Rouergue. Je n'ai rien contre, c'est historiquement vrai. Mais ce que je voudrais quand même dire, c'est que le Rouergue, comme pas mal d'autres provinces, n'avait plus du tout d'existence administrative à la veille de la Révolution. D'abord, ces États provinciaux ne se réunissaient plus depuis le milieu du XVIIe siècle, pas plus que ceux de Quercy, voisins, que, d'autre part, Saint-Antonin était englobé dans la circonscription administrative royale qui était la généralité, à la tête de laquelle il y avait un intendant, lequel siégeait à Montauban, et qui réunissait en fait le Quercy et le Rouergue. Ce qui veut dire que depuis un siècle et demi, ou presque, Saint-Antonin se trouve englobé dans un espace plus large qu'un Rouergue, où de toute façon sa place dans la basse marche du Rouergue était extraordinairement marginale. J'ajouterai d'ailleurs que la moitié du territoire municipal de Saint-Antonin, toute la partie du Causse est en Quercy, la Bonnette faisant frontière, de même d'ailleurs que la Caylus, l'autre moitié est en Rouergue. Je veux dire que cet attachement atavique à une identité provinciale qui a eu son existence au Moyen-Âge ne se justifie plus pour l'époque moderne. Et d'autant moins que, et je terminerai là-dessus, Saint-Antonin a bénéficié d'un certain nombre d'infrastructures et enfin d'une réforme administrative qui l'ont davantage encore inscrite et enracinée dans un espace plus large, qui est un espace unifié. Alors c'est d'abord la politique des routes royales développée par l'intendant de Montauban. Cette politique très énergique qui se développe dans les années 1760 surtout, consiste, pour ce qui nous intéresse, dans la construction de la route de la généralité qui va donc de Montauban à Millau et qui passe par Caussade, par Caylus, par Villefranche, etc. Cette route, évidemment, évitait Saint-Antonin. Et il se trouve que la municipalité, les consuls de Saint-Antonin, n'ont eu de cesse d'obtenir, de rajouter à ce programme, qui était un programme, il faut le dire, d'infrastructure colossale pour les moyens de l'époque, la bretelle qui va permettre de rattacher Saint-Antonin à cette route. C'est la bretelle, la route actuelle qui vient de cette fonte et qui date exactement de cette même époque. Ce qui veut dire, si vous voulez, que l'image, je crois, d'un Saint-Antonin Rouerga qui ne regarderait que du côté de Rodez est une image, mais archi-fausse. Je dis ça parce qu'elle traîne encore dans trop de têtes et il faut voir les choses comme elles étaient. En réalité, dès cette époque, c'est la métropole, entre guillemets, la petite métropole à laquelle Saint-Antonin est attaché, avec laquelle il échange, c'est Montauban. Et c'est déjà le cas, même si administrativement, elle reste encore en dehors jusqu'à la création du département de Tarn-et-Garonne qui ne se fera qu'en 1808. D'ailleurs, l'administration royale avait compris la nécessité de réforme des régions, de réforme provinciale, lorsqu'elle a créé, là aussi 10 ans avant la révolution de 1789, donc en 1779, une assemblée qui épouse les limites de la généralité, mais dans lesquelles on s'efforce de faire délibérer un corps représentatif qui va prendre le nom d'Assemblée de Haute-Guyenne. Alors, sous ce nom pompeux se cache en fait une assemblée de 52 membres, si je me souviens bien, qui sont en partie choisis par le souverain et en partie cooptés, qui vont se réunir finalement à Villefranche de Rouergue, ce qui rend d'ailleurs les Montalbanais furieux, mais Villefranche a une position plus centrale, et dans laquelle va se développer une entreprise de modernisation de la région qui va prolonger la construction de routes à une échelle plus large, qui va envisager également de développer les transports fluviaux, avec plus ou moins d'ailleurs d'efficacité. Il y a par exemple un projet qui voudrait rendre l'Aviron navigable depuis la Guépie. Ce projet, avec la construction d'écluses, etc., etc., ce projet ne sera jamais mené à terme, et je ne suis pas sûr qu'il ait été extrêmement raisonnable, même si précédemment l'Aveyron pouvait être utilisé, notamment pour faire par flottage, à partir plutôt de Montricoult. Certains disent dans quelques années fastes même de Bruniquel. Enfin, voilà. Mais donc des projets dont certains peuvent nous paraître un peu chimériques et d'autres qui sont novateurs et devanciers, et en particulier le projet d'entreprendre un cadastre général de tous les biens fonciers, terres et autres biens immobiliers qui serviraient de base à une imposition directe. C'était la taille à l'époque. Ce projet va être engagé, il ne sera pas terminé, mais je rappellerai qu'il sera finalement repris à l'échelle nationale par Napoléon. Il ne sera terminé en fait que dans les années 1830. Mais enfin, ça prouve, si vous voulez, qu'un esprit de redéfinition, de réforme, dirait-on peut-être aujourd'hui, s'est quand même emparé, avec la bénédiction royale, c'est Necker d'ailleurs qui a voulu cette réforme, de l'ancienne généralité de Montauban, qu'elle a mis en rapport les notables, les élites des divers coins, et qu'elle a fait circuler certainement tout un courant d'informations et de projets qui vont irriguer probablement les débats au cours de la Révolution. Voilà à peu près, si vous voulez, le panorama, vous le voyez très incomplet, que je voulais brosser, mais il est temps maintenant de faire marcher le zoom de l'histoire et de nous focaliser sur Saint-Antonin.
Merci. Monsieur Amalric, alors je vais être beaucoup moins lyrique que lui et beaucoup plus scolaire sans doute, et je m'en excuse à l'avance. Hein. Je suis historienne certes, mais pas moderniste. C'est pas du tout ma spécialité. Mais voilà, l'idée de cette conférence, elle revient à Thierry Leroy, que je ne remercie pas parce que du coup, il m'a fait travailler pendant les vacances quand même. Mais voilà, c'est moi qui ai eu l'idée de la Révolution, de partir, parce que lui, son idée, c'était que je reprenne un petit peu les émissions de Georges Julien, les émissions de radio. Je me suis dit, pourquoi pas, bon, ça peut être intéressant. Et donc, j'ai choisi la Révolution un peu arbitrairement, parce que ça me semblait être une période connue comme ça, mais en fait, pas tant que ça en dehors des événements politiques, notamment au niveau local. Et en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je savais pas très bien ce qui s'était passé à Saint-Antonin. Et comme je suis assez attachée dans mon enseignement à partir du local pour ensuite partir au national, faire quand même, dans la mesure du possible, un petit peu d'adaptation des programmes. Bon, voilà. Donc, moi, ça m'intéressait de savoir un petit peu ce qui s'était passé. Et donc, je me suis lancée dans cette aventure. Alors, les émissions de Georges Julien, ben, vous les connaissez sans doute, pour certains d'entre vous. Donc, en fait, ça a été le grand archiviste et il a dépouillé beaucoup d'archives. Il a quasiment, il a couvert une grande partie de l'histoire Saint-Antonin. En tout cas, moi, ce que j'ai, c'est, ça s'arrête à la fin de la Révolution. Donc, c'était une émission de radio réalisée en 83-84. Pour Radio Nobleval, qui s'intitulait « En parcourant les archives ». On va peut-être écouter un extrait quand même. Merci Nicole. Petite minute.
Fut exécuté en public le 14 juillet 1794 pour célébrer le 5e anniversaire de la prise de la Bastille. La victoire, en chantant, nous ouvre la carrière, la liberté guide nos pas.
Monsieur Julien, Depuis plusieurs semaines, vous nous décrivez les faits marquants de la Révolution française, qui a duré plusieurs années. Aujourd'hui, vous allez nous décrire la vie à Saint-Antonin pendant la Révolution française.
Quelques aspects de la vie à Saint-Antonin pendant la Révolution française, étant donné que c'est pas facile de décrire une période pareille. Surtout quand on dispose d'une documentation énorme accumulée dans nos archives pendant la période, cette période révolutionnaire. Cette énorme masse de documents traduit l'intensité de la vie municipale, faite d'innombrables réunions. Certains mois, on compte jusqu'à 10 réunions du conseil municipal, qu'on appelait alors conseil général de la commune. Faites aussi d'assemblées électorales diverses, on votait beaucoup, de rassemblements et de fêtes civiques, d'enquêtes, de recensements, de réquisitions, de visites domiciliaires, sans parler de la mise à exécution des mesures administratives que multipliait le pouvoir central.
Voilà, je voulais quand même faire...
Hein? On peut applaudir,
oui, tout à fait. On peut l'applaudir. Non, mais je trouvais intéressant de l'entendre. Alors, en fait, on entend trois personnes. Hein. C'est d'abord sa femme qui participait aux émissions en mettant en musique. Et elle choisissait tout à fait scrupuleusement et elle expliquait ses choix. Et ensuite, il y avait Patrick Mille, hein, je crois, qui faisait le rôle de l'intervieweur, du relanceur. Donc, c'est super intéressant. Donc, moi, j'ai 47 émissions. Je ne sais pas s'il a été au-delà de la Révolution française. Voilà. Donc, il a étudié, comme il le dit très bien dans cet extrait, les archives de la mairie. C'est-à-dire que pour un travail vraiment approfondi, c'est vrai qu'il faudrait recouper avec d'autres sources. Et là, ce serait intéressant d'avoir des sources ou notariales, état civil, archives privées, etc., qui doivent exister. Mais voilà, donc ça vaudrait le coup. Et puis, son étude, elle porte exclusivement sur Saint-Antonin. Et en même temps, la comparaison avec ce qui se passe à côté, on le verra, est nécessaire pour comprendre le sens de l'histoire locale. Monsieur Amalric en a déjà parlé. Et ce qui se passe à Saint-Antonin n'est pas toujours forcément symptomatique de ce qui se passe dans la région ou même à l'échelle nationale. Alors moi, quand j'ai commencé à écouter les émissions de Georges Julien, je me suis dit, il n'y a pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose à Saint-Antonin, finalement. On a l'impression que la vie quotidienne d'une petite ville de province, eh bien, elle continue malgré les événements, et que tout ça semble très, très éloigné du tumulte parisien. Alors, en fait, en discutant avec Monsieur Amalric, on a essayé de voir un petit peu quelle était l'originalité des événements à Saint-Antonin et de mettre en évidence, comme il l'a très bien dit, des évolutions plus profondes. Alors pour étoffer cette conférence, mais je vais essayer de pas faire trop long quand même, parce que Monsieur Amalric a déjà dit beaucoup de choses aussi, je vais essayer d'aller un peu plus loin que 1789 et m'arrêter à la coupure de 1792 avec l'installation de la République. Donc, quelle est la situation au début de l'année 1789? Donc à Saint-Antonin, c'est une petite ville du territoire, de la marge du territoire, du Rouergue, qui compte environ 5600 habitants. Ça, c'est le recensement de 1793 qu'il a dit. Alors entre-temps, bon, il y a eu un peu quelques levées, etc. Mais enfin, on est dans cet ordre d'idées. Elle est donc sous l'autorité de l'Assemblée de Haute-Guyenne. Je n'y reviens pas. Création tardive, assez impopulaire, etc. Puisqu'en fait, rassembler le Quercy, le Rouergue comme ça pour Saint-Antonin, ça va pas de soi. On le verra. La ville est gouvernée par un conseil municipal, c'est peut-être intéressant de le souligner, qui est indépendant, puisqu'en fait, la commune avait racheté l'office de maire à deux reprises. Cet office avait été vendu d'abord par Louis XIV, qui avait besoin d'argent, et puis ensuite revendu par Louis XV, qui avait de nouveau besoin d'argent également. Donc là, il est indépendant, l'office de maire, il appartient, il est communal. Et le conseil municipal de 1789, on a un maire qui est médecin, Guillaume Lacombe, et tout le reste, ce sont des avocats. Donc, puisque la ville compte évidemment pas mal d'avocats, des bourgeois, des commerçants, des artisans, très peu de nobles, on le sait. Le principal représentant dont il sera question dans cette conférence, c'est le comte de Lastic Saint-Jalles. Par contre, un certain nombre de congrégations religieuses, en tout cas sur le papier, il y avait 4 couvents d'hommes à Saint-Antonin, mais qui semblent être sur le déclin, puisque pour une cinquantaine de places, en fait, on recense, enfin Georges Julien recense, 17 moines ou chanoines et 3 convers. Ça fait une vingtaine de personnes, ce qui est très peu. Je le souligne parce que ça a son importance pour la suite. Bon, et puis dans cette population, pas mal d'indigents aussi, on va en reparler, qui sont évalués à plusieurs reprises dans différentes archives au nombre de 800. Donc évaluation faite par la mairie, ce qui représente 15% de la population totale. Donc début 1789, la situation locale, elle est terrible, comme partout en France, puisqu'on a un compte-rendu du maire qui parle des récoltes absolument catastrophiques de l'été précédent, donc 1788, avec des orages, de la grêle, etc. Énormément de ravinements aussi, hein, puisqu'il y avait beaucoup moins de forêts à cette époque. L'eau qui entraîne tout, les terres, etc. Et puis, il parle d'une misère, de mendiants, d'une humanité souffrante, tout ça dans un style extrêmement pathétique, mais il rencontre d'une terrible réalité, c'est-à-dire que l'hiver 88-89 est très rude, le froid était exceptionnel, les récoltes de l'année précédente n'ont pas été bonnes, et donc la famine est là, le peuple manque de pain, comme partout en France. Donc que fait la municipalité, qui a l'air bien soucieuse de la situation? Elle affecte un reliquat d'imposition à l'achat de nourriture pour les plus pauvres, et elle va créer des ateliers de charité pour les nécessiteux valides. En échange de nourriture, ils vont réparer la banlieue de la ville, comme ils disent, c'est-à-dire les avenues, les fossés, etc. Et ça, je le souligne aussi parce que ça revient souvent, c'est-à-dire c'est la municipalité, de la mairie de Saint-Antonin se préoccupe beaucoup de ces indigents, pour différentes raisons, on y reviendra, mais voilà, elle essaie toujours de pallier quand même à la situation. Donc au total, 10 tonnes de pain seront achetées, par exemple, ce qui est assez, assez considérable, et donc distribuées à ces fameux indigents évalués à 800. Janvier 89, c'est également le moment que choisit le roi pour annoncer la convocation des États généraux, on le sait, les caisses de l'État sont vides. Et dans la société littéraire dont a parlé Monsieur Amalric, eh ben, on imagine bien que ça passionne les nobles, les bourgeois, les riches marchands, les chanoines qui s'y réunissent. Et que certainement des réformes de Monsieur Necker, qui est très populaire en France à l'époque, il doit être question. Donc, il y a d'abord les élections aux États généraux. Alors, pour Saint-Antonin, c'est simplement l'élection concerne que le tiers état, mais certainement le clergé et les nobles ont dû voter ailleurs puisque le comte de Lastic a été élu, visiblement. Moi, je l'ai retrouvé sur une liste. Donc, ils ont dû voter dans une autre paroisse. Et puis ensuite, en fait, les 46 délégués de Saint-Antonin se sont réunis avec tous les autres sur Villefranche, à la Sénéchaussée. Et ensuite, là, ils ont élu les délégués qui partaient pour Paris. Donc, aucun Saint-Antoninois n'est allé à Paris à cette occasion-là. Et puis ensuite, la grande affaire, évidemment, pour ces 46 délégués, hein, qui représentent vraiment l'ensemble de la population. Et c'est assez intéressant, d'ailleurs, parce qu'on voit que toutes les corporations qui ont chacune un ou deux délégués sont représentées. Il y en a une liste incalculable. Ça donne une idée de la vie des métiers de Saint-Antonin. Donc ils vont rédiger ces fameux cahiers de doléances, dont un exemplaire est conservé aux archives, hein, l'exemplaire de Saint-Antonin. Donc c'est assez intéressant, on a regardé ça avec Monsieur Amalric. Donc ces cahiers de doléances, bon, on sait qu'ils ont été faits sur des modèles en circulation. Hein, donc il y a plein de choses qui sont très classiques. Ils sont en trois parties, 47 articles au total. Alors qu'est-ce qu'on apprend de ces cahiers ? Eh bien que d'abord beaucoup de propositions auraient pu être faites ailleurs, parce que modèle de cahier oblige, notamment en ce qui concerne leurs revendications politiques. Elles sont tout à fait classiques, le vote par tête et non par ordre, le rôle accru des parlements de province, pardon pour le son, la fin de la lettre de cachet, la liberté d'imprimer. Beaucoup de demandes également à l'encontre du clergé, il y a toute une rubrique, tout un chapitre là-dessus, avec diminution du revenu des hauts clergés, la suppression des abbayes, en même temps l'augmentation des revenus des curés et des cures, ce qui est assez étonnant, mais en fait l'idée c'est qu'ils assurent la charité et de réduire la mendicité, bon, pourquoi pas. Réformer qu'est-ce qu'ils veulent faire aussi? Oui, reculer l'âge des vœux, etc. Enfin, on a quand même l'impression que les quatre couvents de Saint-Antonin n'ont guère de partisans. Bon, et évidemment, ces cahiers, ils ont été rédigés par des notables, hein, puisque les élus qui ont rédigé les cahiers, ce sont des avocats, en plus du maire. Donc, ils demandent énormément de choses pour la bourgeoisie. Ça, c'est également tout à fait classique. Après, ce qui est étonnant, ce qui nous a surpris, c'est qu'en fait, et moi, j'ai compté ensuite sur les cahiers de doléances, c'est que le quart des articles concernent les impôts, les taxations sur le domaine agricole. Avec même des droits que M. Amalric ne connaissait pas. Donc il s'agit de les réduire, les aménager, les supprimer, etc. Enfin, sur le quart des articles, ce qui est quand même assez important. Et en même temps, c'est surprenant parce que les rédacteurs de ces cahiers sont quand même des bourgeois, des notables de la ville, donc des urbains. Donc on peut supposer que des terres autrefois propriété des nobles ont dû être rachetées par des bourgeois et qu'ils ont envie évidemment d'avoir les mêmes droits, les mêmes privilèges que les nobles, et que cette petite ville de province a dû se ruraliser au cours du XVIIIe siècle. Les activités artisanales et industrielles, elles persistent, la papeterie par exemple, mais sans doute qu'elles périclitent légèrement et qu'en tout cas beaucoup de bourgeois ont dû investir dans la terre. Et par ailleurs, et donc ils vivent évidemment des rentes et des revenus fonciers. Bon, c'est un peu recoupé par le fait qu'il y a eu pas mal de constructions justement à l'extérieur de la ville à cette époque-là, et on imagine très bien les bourgeois partir l'été, hein, prendre l'air et surveiller les moissons, bien sûr, pendant la belle saison. Une fois que les cahiers, donc les élus, les délégués sont élus, les cahiers sont rédigés, eh bien l'effervescence retombe et la ville retourne à ses activités habituelles et rien dans les archives n'évoque finalement la Révolution. Donc la question suivante, c'est comment la Révolution arrive-t-elle à Saint-Antonin à l'été 1789 ? Eh bien, elle arrive. Alors, à partir de début août, il y a des procès-verbaux qui laissent entendre qu'il s'est passé des choses. La prise de la Bastille, on la qualifie de révolution mémorable, mais c'est tout. Autres événements parisiens, il n'est absolument jamais question. Et puis, début août, un événement exceptionnel arrive qui va être relaté, en fait, en septembre. Alors, il y a eu un épisode de panique, ce qu'on a appelé au niveau national la grande peur, qui s'est tenue 31 juillet, 1er août, 2 août. Et là, le 31 juillet, arrive un courrier des consuls de Sept-Fonds disant que 30 000 hommes sont sur les routes, ont investi des vastes Cahors, c'est la catastrophe, etc. Donc, le tocsin, l'alarme, et voilà, tout le toin-toin. Donc, tous les hommes armés du coin arrivent sur Saint-Antonin, alors armés, hein, les faux, les broches, les piques, hein, des haches, mais certainement pas beaucoup d'armes, en tout cas. 2 heures après, nouvelle lettre. Bon, finalement, c'est 4000 brigands, donc on change un petit peu d'échelle. Mais enfin, tout le monde reste sur ses gardes, on ne dort pas, on monte la garde. Enfin, il y a toutes des relations comme ça. C'est très précis, très détaillé. Pareil, encore, on accueille des gens qui viennent défendre la ville et qui viennent de l'Albigeois, de Verfeil, de Najac, etc. 1er août, ça continue. On s'organise, il faut nourrir tout ce monde-là, ce qui n'est pas simple non plus. Le 2 août, on entend dire que l'abbaye de Beaulieu, ça y est, elle a été incendiée, les brigands sont là, sont à nos portes, etc. Enfin, c'est absolument, ça a l'air tout à fait alarmant. Et puis, la nouvelle se trouve à Fosse. Bon, voilà. Donc, ni plus ni moins. En fait, c'est ce qui s'est passé au niveau national, c'est-à-dire une espèce de panique générale, sans aucun fondement réel, née de nouvelles colportées, propagées de ville en ville, depuis Cahors, ici visiblement, mais peut-être même depuis plus loin, depuis Paris, une espèce de psychose collective. Hein, finalement. Donc on sait que cette panique, elle a été générale à l'été 89, que il y a eu des châteaux de brûlés, des terriers également. Bon, évidemment, pas à Saint-Antonin, puisqu'il n'y avait pas de château. Alors, il n'y a que l'abbaye de Beaulieu. Juste cette fausse nouvelle, peut-être parce que c'était une abbaye qui était très riche, et donc les privilèges la faisaient assimiler à tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de Beaulieu. Bon, l'origine de ces rumeurs, elle reste floue. On sait que ça démarre autour du 20 juillet, que pendant longtemps, on a parlé d'hypothèses, de coups montés, les aristocrates, le haut clergé, la franc-maçonnerie. Bon, en fait, c'est vraiment une affaire de peur. On est l'été 1789, on est au moment des moissons. Il s'agit là de que les récoltes soient bonnes, il faut que ça rentre parce que ça a été trop difficile l'année précédente. Et c'est vrai que certainement sur les routes, les indigents, des errants, des gens qui sont là, qui sont peut-être dans les champs, près des champs, etc. Et que c'est la panique, hein, que la population se dit si les récoltes sont anéanties, qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Et puis peut-être aussi dans les mémoires collectives, le souvenir... de brigands fameux, plus anciens, peut-être même des histoires qu'on se raconte, de lointaines invasions, etc. En tout cas, à Saint-Antonin, la première réaction, c'est de renvoyer tout le monde à la maison parce que ça coûte cher. Hein, ça s'est bien noté que les hommes à nourrir, alors nourrir c'est du pain, mais il faut du vin quand même pour tous ces hommes, et ça c'est pas possible. Hein. Donc dès le 2 août au soir, tout le monde doit rentrer parce qu'il est bien noté que ça coûte très cher. Mais pas que, il n'y a pas que cette réaction de la part de la... de la mairie, la mairie prend conscience que voilà, il y a quand même une inquiétude à avoir et que leur situation est peut-être assez précaire. Donc, ni plus ni moins, il crée en fait une garde bourgeoise. 20 compagnies de 25 hommes, ça fait quand même 500 hommes en armes dans Saint-Antonin, qui vont veiller toutes les nuits, quartier par quartier, 20 compagnies avec évidemment un lieutenant et puis des bourgeois, mais pas que, parce qu'il faut recruter 500 hommes. Donc voilà, c'est quand même énorme, 500 hommes en armes, et ça ne dort pas. Mais voilà, cette milice bourgeoise, en fait, elle va se transformer en garde nationale. Hein, c'est ce qui va faire l'armature de la garde nationale de Saint-Antonin. Et puis, ben, les bourgeois pensent qu'ils vont être contents, d'autant qu'ils ont nommé à sa tête le comte de Lastic Saint-Gilles, dont c'est la première apparition dans les affaires publiques au moment de la Révolution. Et la mairie retourne à ses affaires courantes. Donc, de nouveau, nourrir les indigents, c'est la préoccupation principale qui revient. Réparer éventuellement la tour de la maison consulaire qui s'est écroulée déjà, mais qui sera finalement pas réparée. Et puis taxer le prix du pain pour prévenir en fait une trop forte hausse en cas de pénurie. Le calme revient, on moissonne, donc l'été passe tranquillement, mais la révolution n'est quand même pas loin, puisque dès le mois de septembre, il y a une première élection consulaire, qui ne se passe pas comme d'habitude, hein, parce que les élections consulaires étaient assez... c'était un peu le jeu des chaises musicales entre notables, une dizaine d'hommes, on change plus ou moins, mais bon, entre soi. Et puis là, il y a quand même des conseillers politiques qui disent non, il faudrait faire ça un petit peu mieux, il faudrait renouveler, il faudrait que ce soit avec une pluralité des suffrages, etc. On a l'impression qu'ils veulent plus de cette cuisine électorale en cachette. Donc ils discutent, et puis à ce moment-là, il y a l'éruption d'un homme du peuple, Jean Revel, dit Kerle, qui arrive et qui lui demande que l'élection soit faite au pré-commun, hein, donc sur la route de Caylus. Et que si on n'est pas d'accord, 50 grenadiers seront là pour soutenir sa demande. Enfin, c'est voilà, tout ça est très très bien relaté, mais dans un but qui n'est pas anodin. Et on souligne bien d'ailleurs dans ce compte rendu, c'est assez amusant que l'homme il est mal habillé, qu'il a un bonnet sur la tête, on soupçonne qu'il a bu. Hein, bon, voilà. Mais en fait, parce qu'en fait, cet homme, ils vont essayer ensuite de le faire limoger. C'est pour ça qu'ils mettent moult détails. C'est assez rigolo. Et cet homme, il est bien connu, et c'est pas innocent si c'est lui qui fait cette demande populaire, on va dire, parce qu'il demande même par jeu aux notables de, voilà, il cite même des noms qui viennent, oh là là, c'est monstrueux, de la lie du peuple, hein, c'est comme ça que c'est relaté. En fait, ce gars est le porteur, d'accord, de Saint-Antonin à Montauban, donc c'est lui qui transmet les messages. Donc en fait, il est très au courant de ce qui se passe sur Montauban, et puis même ailleurs, hein, donc c'est pas étonnant que ce soit lui. Donc ils vont faire tout un tas de courriers, on voit ça dans les archives, pour qu'il soit limogé, puis en fait non, il va pas être limogé, c'est pas possible, donc ils vont garder le fameux Revel comme messager. En tout cas, la demande des conseillers politiques, elle a été entendue, puisqu'il y aura un renouvellement complet des notables. Donc, on sent quand même que là, les notables, ils doivent faire attention. Ils n'ont plus tout à fait le champ libre. Donc, ce premier mouvement démocratique va s'accompagner d'un sentiment patriotique, hein, comme partout en France également. Et le 27 septembre, toujours en 1789, va se tenir une grande cérémonie d'intronisation de cette fameuse milice qui n'est plus bourgeoise mais nationale, et au même moment se tient évidemment à Paris la même chose pour introniser la garde nationale avec Lafayette. Donc serment, les drapeaux tricolores qui font leur apparition, qui sont tout neufs, achetés à Montauban, il y a le montant, etc. Donc la révolution arrive, hein, mais au au rythme de Saint-Antonin, donc ce n'est pas, voilà, ce n'est pas énorme, mais quand même les choses bougent. À la fin de l'année 1789, ce qui domine malgré tout dans les préoccupations de la mairie, c'est la misère. Et là, les textes sont encore une fois tout à fait dans un style pathétique, tout à fait étonnant. La ville décide d'emprunter, même de faire un emprunt assez conséquent pour nourrir tout le monde. Parce que l'hiver arrive, on n'est pas sûr du tout de tenir encore l'année. Et là, le maire a des arguments choc, hein, qu'on connaît très bien, c'est-à-dire que il rappelle que ceux qui n'ont rien peuvent tout oser et entreprendre. Hein, c'est noté noir sur blanc. Donc, ils ne prennent pas de risques, hein, les bourgeois de la ville. Ils organisent l'achat de blé, l'organisation d'ateliers de charité, une fois de plus. Donc, ils sont extrêmement prudent. Donc on a l'impression voilà qu'ils suivent l'air du temps, la garde nationale, le renouvellement des élus, le drapeau tricolore, tout ça ça se fait, mais ils sont quand même très prévoyants et craignent tout débordement populaire, donc en fait ils font tout pour l'éviter. Alors pour avancer un petit peu, bien voyons maintenant comment Saint-Antonin va suivre les transformations de la France pendant la brève période de la monarchie constitutionnelle, donc jusqu'en 1792. Bien la vie locale va se faire le reflet des événements nationaux, mais toujours à la manière de Saint-Antonin. Donc la première question importante pour Saint-Antonin, monsieur Amalric en a parlé à demi mot, c'est le découpage administratif. Puisqu'en fait, à la fin de 1789, les projets de création des départements occupent le devant de la scène. Il y a deux projets qui s'opposent, Rabault-Saint-Étienne, des députés très, très influents. Et donc là, Saint-Antonin, c'est la panique, hein, chez le conseil municipal, parce qu'en fait, leur première demande, c'est d'être chef-lieu de district. Donc ils envoient des pétitions, signé par plus de 100 personnes, avec tout un tas d'arguments disant que Saint-Antonin, c'est d'abord aux confins de trois provinces, hein, Quercy-Rouergue et Languedoc. Il signale ça, pas que Quercy-Rouergue, malgré la création de la Haute-Guyenne, que c'est une grande ville, ils exagèrent, hein, ils gonflent les chiffres, qu'elle paye beaucoup d'impôts, qu'elle est très ancienne, et puis qu'elle est très éloignée de tout, donc voilà. Bon, finalement, ça va pas marcher, Mirabeau, Rabault, Saint-Étienne accusent réception, mais ils donnent pas satisfaction, donc Saint-Antonin ne sera pas chef-lieu de quoi que ce soit. Alors après, Saint-Antonin va se rabattre sur la demande. Surtout, on veut pas être dans l'Aveyron avec Rodez, hein, ça c'est pas possible. Bon, finalement, ils échouent aussi, ils sont dans l'Aveyron avec Rodez, parce qu'entre-temps, ils vont appuyer la demande de Montauban, qui ne sera pas non plus chef-lieu, donc ils échouent sur toute la ligne. La ville y perdra quand même quelques juges, quelques greffes, et on peut être un peu surpris, hein, de la mobilisation de Saint-Antonin pour être rattaché à Montauban. Et surtout éviter Rodez, hein. On a quand même l'impression que Rodez, voilà. Bon, c'est vrai que c'est un peu loin, le trajet est lent à l'époque. Bon, après on peut se dire, est-ce que c'est l'héritage des guerres de religion, un passé protestant commun? Bon, certainement il y avait des échanges familiaux très forts, une connivence importante au sein de cette bourgeoisie protestante. Et d'ailleurs, lors des événements terribles du 10 mai 1790, donc moi j'ai lu qu'effectivement Saint-Antonin, qui se déroule à Montauban, Saint-Antonin envoie des émissaires pour essayer de calmer le jeu, puisque en même temps Bordeaux envoie des troupes, envoie des hommes. Donc voilà, donc ils sont vraiment très attachés à Montauban. Donc ça occupe la mairie une grande partie de l'année, puisque le projet avance lentement, mais ils n'obtiendront pas satisfaction. La deuxième chose importante, bien, c'est le droit de vote au suffrage restreint qui va faire son apparition dès le mois de février, puisqu'il y a une nouvelle élection qui se passe au suffrage restreint. Donc, c'est suffrage censitaire, donc on paye un certain nombre. Il faut une imposition, je crois, à 3 journées de travail et plus de 21 ans. Bon, c'est le début de la démocratie. Et encore une fois, beaucoup moins d'avocats qui vont être élus, plus de marchands. Encore une fois, c'est le renouvellement des élites. Les anciens ne sont pas réélus. Donc, il y a un bon renouvellement. Mais le maire est un juge. C'est le fameux François Pomies, d'accord, qui va démissionner un an plus tard parce que il sera élu député à l'Assemblée législative entre 91 et 92. Donc, il va démissionner. Mais il va être maire. Hein, donc là, sur la plaque, c'est marqué maire à partir de 1800. En fait, il a déjà été un petit peu avant. Voilà, donc tout le monde commence à s'appeler citoyen, citoyen élastique par-ci, par-là, on le voit dans les différents documents. Et ce sentiment patriotique, il est assez fort, puisqu'on est un an après la prise de la Bastille, c'est donc la fête de la Fédération. Donc, des gardes de Saint-Antonin vont aller à la fête de la Fédération de Villefranche le 1er juillet, à celle de Toulouse le 5 juillet, et vont monter même à Paris sur le Champ de Mars le 14 juillet. Donc, à Saint-Antonin, on est quand même un petit peu dans le coup. Dernière, troisième et épineuse question, on va dire, c'est le règlement de la question religieuse. On a vu qu'à Saint-Antonin, il y avait pas mal de couvents. Et en fait, elle démarre assez tôt, cette question, lorsque les vœux sont supprimés, du coup, les ordres sont supprimés, etc., dès 1790, donc dès le début de la Révolution, à Saint-Antonin, aucun drame n'est à relever. Les couvents étaient de toute façon vides, et à cette occasion, les religieux ont quitté les couvents pour habiter dans la ville, participer à la vie municipale. Quand le serment est demandé l'année suivante, tous les ecclésiastiques prêtent serment. Aucun problème. Ils étaient 17. Ils ont tous prêté serment. Et quand, après l'arrestation après la fin du roi, en fait, il y en a un seul qui va revenir sur ses vœux. C'est le vicaire de Sainte-Sabine. Alors, François Joanny, et qui va pratiquer lui aussi le culte clandestin auprès du Bosc. Et puis ensuite, il va s'enfuir. Et ses oncles, pareil, seront persécutés un petit peu. En tout cas, ils seront emprisonnés à Bordeaux. Mais sinon, rien de tel sur Saint-Antonin, donc pas de persécution, puisqu'ils sont tout à fait, ils prêtent serment, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que, ça c'est ce que Georges Julien dit aussi, il aime bien ce genre de petites histoires-là, l'histoire des cloches. Alors peut-être que des objets de valeur ont été cachés, on ne sait pas où, etc. Mais en tout cas, peut-être avec la complicité de la population, voire des officiers municipaux. En tout cas, tout se passe bien, a priori, voilà. Et là encore, c'est intéressant de voir ce qui se passe à côté, parce que c'était pas du tout la majorité, hein. En France, les prêtres assermentés n'étaient pas majoritaires. Donc le cas de Saint-Antonin est vraiment intéressant et étonnant. Et en 1793, il y a une archive qui est intéressante et que bon, j'aurais pu montrer, mais bon, j'avais pas pris, pas d'image à montrer aujourd'hui, mais il y a Caylus qui n'a plus du tout de prêtres assermentés, lui, qui, la ville n'a que des prêtres réfractaires, demande à Saint-Antonin un coup de main pour dire une messe, hein, parce que, et voilà, et même il recrute, hein, il y a ils recherchent un curé, ils fournissent le logement, tout ça, il n'y a pas de souci. Ils sont vraiment en panne de curé, mais bon, donc il y a un prêtre qui va les dévouer pour dire une dernière messe, hein, bon, c'est ce qui est marqué sur la feuille de route, puisqu'il y a sur l'archive la réponse de la mairie, mais bon, le prêtre Thomas, il va pas faire long feu puisqu'il va même se marier. Donc ils n'ont pas tiré le bon. Mais bon voilà. Donc c'est assez rigolo. Bon, alors que penser de ça? Bien, à moins de parler de déchristianisation. Ça c'est Michel Vauvel qui emploie le terme. C'est peut-être un peu fort. En tout cas, une décléricalisation, ça c'est clair. Une fois que cette question est déjà réglée, on reviendra ensuite sur une analyse. C'est les biens nationaux, puisque les biens du clergé sont déclarés biens nationaux assez rapidement. Alors les biens du clergé, c'est les bâtiments, c'est les terres, mais c'est aussi le mobilier, le linge, etc. Donc l'inventaire va se faire chaque fois en deux temps, l'inventaire et la vente, les biens, les terres d'un côté, les meubles et les objets d'un autre. Donc les enchères auront lieu à Villefranche, la vente aux enchères. La municipalité, concernant les terres, la municipalité de Saint-Antonin avait bien fait les choses, elle a fait plein de lots, hein, il y a une liste de lots comme ça incalculable, ce qui fait que même des laboureurs évidemment sont acquis plus de terres, mais des gens qui n'avaient pas de terres ont pu devenir propriétaires comme des brassiers, etc. Il y a plusieurs noms, donc ça c'est quand même assez intéressant. Et puis, alors les immeubles, évidemment, ils ont été acquis par des riches bourgeois, parce que là, les prix se sont envolés. Donc, par exemple, on avait Costejean pour 20 000 livres, acheté par un ancien juge royal. Les aubergistes aussi, deux aubergistes, Delta et Piquet, qui achètent chacun un couvent. Les Carmes pour l'un, Cordeliers pour l'autre. Et alors, le plus gros, le plus beau lot, c'est Beaulieu. D'accord. Et les deux lots sont acquis par la même personne, hein, c'était l'abbaye et le domaine, par Joseph Penet, qui est un nom bien connu ici, qui est a priori, alors là, il faudrait faire des recherches, mais ça vaudrait vraiment le coup, un ancien capitaine de navire. ce qui veut dire un armateur. Alors, je ne sais pas si c'était le même genre d'armateur qu'à Caussade ou pas. Non, pas du tout. C'était pas. C'était pas, il faisait pas non plus du trafic, enfin du commerce avec les Antilles, tout ça. C'était pas. Il est extrêmement riche parce que le prix de 87 800 livres est quand même énorme. Et donc voilà, c'était la question. Mais en tout cas, il était lié. C'était quelqu'un qui était lié au commerce avec Saint-Domingue, forcément, hein, le commerce du minot, des céréales, voilà, qui était fait par de nombreuses personnalités de Caussade. Les deux autres couvents, Capucins, Génovéfin, est bloqué par la mairie. Alors les Capucins, c'est pour faire l'école des garçons. Génovéfin, c'est pour y installer le presbytère. En réalité, pas du tout, apparemment, puisque la mairie ça devient la maison commune très rapidement. Et la mairie, qui est le musée actuel, reste à l'abandon avec la tour qui est écroulée, qui n'est pas réparée, etc., jusqu'à l'arrivée de Viollet-le-Duc. Voilà pour cette première partie des événements révolutionnaires à Saint-Antonin, et je m'en tiens là, je ne vais pas plus loin dans la chronologie, je trouve que ça fait déjà pas mal. Alors, en conclusion, pour essayer d'ouvrir un petit peu par rapport aux réflexions de Monsieur Amalric aussi, qu'est-ce qu'on peut penser de la révolution à Saint-Antonin? Donc on voit très nettement que à Saint-Antonin, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu d'affrontement, rien qui en tout cas qui transparaisse, que la ville a su, si ce n'est suivre, du moins gérer la période révolutionnaire sans aucun heurt notable. Et on sait évidemment que les choses ne se sont pas déroulées partout, sans parler de Montauban ou de Villefranche, ne serait-ce qu'à Caylus, hein, qu'il en était tout à fait autrement, puisqu'à Caylus, les 14 prêtres étaient suspects contre un seul à Saint-Antonin. Ils ont tous été envoyés à Bordeaux et qu'il y avait 57 suspects au total. Sur Saint-Antonin, 2 suspects, donc le fameux prêtre et le comte de Lastic, qui va être lui aussi embêté et passer une année en prison. Mais voilà, c'était pas non plus une figure contre-révolutionnaire. Il a prêté serment, s'est fait appeler citoyen. Donc, on se demande pourquoi finalement il est arrêté. Il est arrêté lorsque ses enfants émigrent, ce qui était assez classique. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, est-ce que l'engagement de ce fameux de Lastic faisait partie d'une stratégie familiale, pardon? Est-ce qu'il était opportuniste ou sincère? Moi, je pense effectivement pour cette dernière idée, c'est un homme qui était très impliqué dans la société littéraire d'avant la Révolution. Bon, simplement, voilà, au moment de l'émigration des nobles, bon, il a eu comme beaucoup la même peine d'emprisonnement. Ensuite, voilà, comment expliquer finalement le calme qui règne à Saint-Antonin pendant cette période? Pas de foyer contre-révolutionnaire actif, contrairement à Caylus, contrairement à Caussade, contrairement à Montauban. Il n'y avait pas de contre-révolutionnaire actif à Saint-Antonin. Partout, elle a quand même été alimentée par la religion catholique. Donc ici, on peut effectivement penser que la contre-réforme n'avait pas pris en profondeur et que la société de Saint-Antonin était largement encore marqué par le protestantisme. Et d'ailleurs, bon, c'est vrai qu'au moment de la publication de l'édit de tolérance, on voit apparaître tout d'un coup sur l'état civil tout un tas d'enfants, etc. Donc on peut être sûr que effectivement le territoire était resté attaché au protestantisme et que malgré tous les couvents construits, et bien que voilà, finalement ça n'avait pas pris. Le clergé régulier, visiblement dans les couvents en tout cas, hein, le clergé régulier était assez ouvert, semblait assez ouvert aux idées libérales. Et qu'il a sans doute accompagné le mouvement, à sa manière, le mouvement anti-religieux de la Révolution. Car Saint-Antonin comptait quand même des partisans de la Révolution, comme l'a souligné Monsieur Amalric. Les idées du XVIIIe siècle, elles avaient pénétré les milieux aisés, avec l'intermédiaire de cette société littéraire et de salons qui devaient se tenir, alors d'après Georges Julien, peut-être pas chez Lastic, mais peut-être au couvent des Carmes même. Il existait également une loge maçonnique, et on sait que dans les loges maçonniques, il n'y avait plus de clivage d'ordre, hein, tout ça n'existe plus. Donc vraiment, il y a eu une infusion lente et certainement profonde des idées des Lumières. Donc, pour résumer, peu ou pas de contre-révolutionnaires à Saint-Antonin, des notables, des bourgeois, un clergé ouvert aux idées. Du coup, les patriotes ont pu avancer tranquillement leurs idées. Et parfois avec l'appui de la mairie d'ailleurs. Parce qu'il y avait des patriotes actifs à Saint-Antonin, il existait dans la ville une société populaire, qui est un club politique créé sur le modèle du club des Jacobins, composé de citoyens très actifs. Alors actifs, les citoyens actifs, ceux qui payaient des impôts, et puis très actifs parce qu'effectivement, ils surveillaient tout ce qui se passait à Paris. La preuve en est, il y a eu le changement de nom de Saint-Antonin pendant la Révolution. En fait, le changement de nom de Saint-Antonin a été décidé par la mairie 15 jours après la publication du décret incitatif de la Convention. C'est dire si il y avait certainement cette société populaire, certainement qu'elle surveillait ce qui se passait à Paris et qu'elle devait avoir des appuis pour que la mairie accepte comme ça, sans coup faire rire, le changement de nom. C'est qu'il y avait peut-être aussi des gens de poids dans cette société patriotique. Bon, et puis une dernière aussi explication à cette absence de heurts de violence sur Saint-Antonin, et ça c'est Monsieur Amalric aussi qui m'a soufflé cette idée, c'est l'isolement territorial. Finalement, le tribunal révolutionnaire siégeait à Rodez, et sans doute Saint-Antonin a fait en sorte de rester hors de vue du tribunal par la géographie, mais peut-être aussi en faisant en sorte de pas trop se faire remarquer, en réglant les choses au fur et à mesure, et de façon à ce que finalement tout se passe sans trop de heurts. Voilà, moi j'ai terminé ma présentation. J'espère ne pas avoir été trop longue, et on va essayer de répondre à vos questions ou observations. Merci.
En votre nom, je remercie Laure Mézière qui a travaillé cet été, comme vous l'avez remarqué. Et ce que moi je dirais comme impression principale, c'est que on est content qu'elle l'ait fait, et tellement qu'on voudrait qu'elle continue. C'est-à-dire qu'on voudrait connaître la suite de l'histoire pour la période révolutionnaire. Peut-être aussi on a envie de savoir quelle est la trace que la Révolution a laissée ensuite sur l'histoire de Saint-Antonin au XIXe siècle. Donc il y a beaucoup de suites qui sont appelées par cette conférence. Maintenant, je donne la parole à ceux qui veulent poser des questions.
Vous n'avez pas donné le nom donné à Saint-Antonin. Il s'agissait bien entendu de Libreval, qui n'a tenu que quelques mois. Deuxièmement, pour s'occuper des nécessiteux à Saint-Antonin, on avait chargé un abbé prébendé, l'abbé Fontenille, de s'occuper de cette tâche à laquelle il s'est acquitté de façon remarquable. Son nom subsiste encore dans une petite rue à droite de la rue Saint-Angèle.
Alors, je suis Catherine Langlais, dont M. Amalric a évoqué avec Jean Badial et nos petites recherches de Cossadet. Donc si je peux juste compléter ce qui a été dit pour faire quelques différences. La première chose que je voudrais dire sur le résultat de nos recherches sur la société du XVIIIe siècle, c'est que Saint-Antonin était en fait très lié à Caussade, contrairement à ce qu'on peut penser vu son éloignement géographique. Vous permettez que je me lève? Ces liens, ils sont des liens beaucoup économiques, puisque Saint-Antonin, comme Caussade, a développé des liens de négoce avec Saint-Domingue. L'ancienneté de ces liens est due au phénomène du protestantisme, où beaucoup se sont exilés pour gagner leur vie et ont donc créé des réseaux familiaux de négoce international. Et ce qui est vrai à Caussade est dans une moindre mesure vrai à Saint-Antonin, ne serait-ce que par les liens de mariage entre des négociants protestants. Par exemple, un grand négociant de Caussade a épousé une Touron, qui était une famille d'armateurs de Saint-Antonin. Boudet, donc, a été associé à des Tourons, et ils étaient présents et implantés au Canada avant 1763. Et les Boudet, qui étaient une grande dynastie de négociants, qui ont joué un grand rôle dans la révolution à Caussade, je vais pouvoir arriver à la suite, ont plusieurs alliances avec les Tourons. Pour revenir aux choses qui peuvent être communes entre Saint-Antonin et Caussade, donc moi j'ai eu la chance de tomber par hasard sur les mémoires d'un noble toulousain qui a passé 2 ans à Saint-Antonin et qui après la Révolution a écrit ses mémoires, et il a des descriptions assez précises de, soyons honnêtes, la bonne société saint-antoninoise. Il écrit que à Saint-Antonin comme à Caussade, la plupart des grandes familles urbaines, on avait bien une société très urbaine comme vous la décrivez, Tous ces gens ne peuvent en fait vivre, parce que l'économie locale de Saint-Antonin est en train de péricliter, que parce qu'ils ont des métairies et les produits de la terre. D'où l'importance donnée dans les cahiers de doléances aux histoires de taille et de cadastre, puisque le principal de l'imposition de l'Ancien Régime, surtout en Quercy, reposait sur la terre et le foncier. Donc, ce que dit bien Fonvielle, puisqu'il s'appelle comme ça, c'est que pour la plupart des grandes familles de Saint-Antonin, sans métairie et les ressources agricoles, pas de fortune. Voilà. Donc ça, c'est un point commun avec Caussade. La chose qui les rapproche de Caussade aussi, et on revient à ces réseaux de protestantisme et de franc-maçonnerie, alors, on n'a pas connaissance à Caussade, ce qui ne veut pas dire que ça n'ait pas existé, d'une société littéraire, ce qui est effectivement un signe très fort de société urbaine. Alors, Fonvielle nous confirme bien quand même, moi je vous parle des liens des protestants, mais aussi des liens entre familles nobles jusqu'à Montauban. Il faut pas, alors la poste marchait très bien. Avec le grand chemin de Villefranche, de Caussade à Villefranche et vers l'Auvergne, les liaisons se faisaient facilement et les nouvelles circulaient beaucoup. À Caussade, on a une loge maçonnique qui, elle, j'en suis persuadée, a joué un rôle très important, mais dont les membres aussi s'investissaient dans la vie culturelle. Donc on a cette correspondance. Moi, je sais le rôle politique, enfin, je sais, nous savons, puisque je ne suis pas la seule à avoir travaillé dessus, mais j'ai beaucoup travaillé sur ce qui s'est passé après le déclenchement de la Révolution, sur le rôle important qu'ont joué les membres de cette loge maçonnique dans les institutions révolutionnaires. Donc, peut-être qu'à Saint-Antonin, on a la même chose. Voilà ce qui me semble rapprocher les sociétés de Saint-Antonin et Caussade. Ensuite, pour le déroulement de la Révolution, par rapport à tout ce que vous évoquez, je pense que Caussade, ce qui s'est passé à Caussade à partir de la Terreur, a été manifestement un contre-modèle pour beaucoup de villes. Et quand vous évoquez le fait que Saint-Antonin a essayé de rester discrète par rapport au tribunal révolutionnaire à Villefranche, c'est qu'à Caussade, les dissensions entre protestants et catholiques et donc le suivi de la Révolution ont été très très forts. Ils se sont ravivés à ce moment-là. Au moment de l'exécution de Louis XVI, une partie de la population de Caussade a manifestement estimé que la Révolution allait trop loin. Le roi était extrêmement aimé et respecté, et touché à la personne d'un monarque de roi divin pour des gens qui étaient quand même catholiques. Alors, Fonvielle dit qu'avant la Révolution, Saint-Antonin comptait tranquillement 3000 protestants avoués. Donc finalement, plus de protestants avoués que de catholiques. Ce qui explique et que les relations étaient très pacifiées entre les deux communautés. Fonvielle l'écrit, les gens vivaient en très bonne intelligence et sans conflit. Je ne suis pas sûre que c'était le cas à Caussade, pour d'autres raisons historiques. Bref, au moment de la mort de Louis XVI, la population catholique, d'abord on a beaucoup plus de prêtres réfractaires à Caussade qu'à Saint-Antonin, en particulier le prêtre de l'église principale qui est Notre-Dame de Delfreis, l'église que vous connaissez tous, lui devient réfractaire. Donc une partie de la population manifeste à la mort de Louis XVI. Et là, les protestants montalbanais, avec lesquels étaient très liés les protestants caussadais dont je vous ai parlé, qui sont au pouvoir à Montauban et qui ont l'expérience traumatisante du 10 mai 1790, où on a cru la Saint-Barthélemy revenue, font une, il n'y a pas d'autre mot, c'est une descente armée à Caussade. En 24 heures, on limoge la municipalité, on arrête, et surtout, ce sont les Montalbanais qui vont nommer la municipalité. Rabot Saint-Étienne et Jambon Saint-André s'installent à Caussade. Et 16 Caussadais, plus un soldat dont on va savoir qu'il était déserteur, qui était à Caussade à ce moment-là, sont arrêtés. Et au lieu d'être envoyés à Montauban, sur demande de Jambon Saint-André, appuyé par des protestants caussadais, d'une grande famille de négociants avant la Révolution, sont envoyés au tribunal révolutionnaire à Paris. Ils sont tous guillotinés. Donc, je pense que dans le Quercy, dans le Bas-Quercy et jusqu'ici, vu les liens qu'il y avait entre les familles, cet exemple de ce qui s'est passé à la Terreur à Caussade a dû profondément inciter les municipalités et les populations à surtout essayer de calmer le jeu. Et d'ailleurs, à Caussade, après cet épisode extrêmement violent, on voit bien que les municipalités s'efforcent pendant toute la Révolution de pacifier les choses. Voilà, je pense que c'est, si ça peut éclairer. Je voudrais juste dire un mot pour finir et après, excusez-moi d'être aussi longue, sur monsieur de Lastique Saint-Jal, dont ils étaient déjà seigneurs de Casse, hein, qui n'est pas très, Casse, c'est ça le château? Le château de Casse était déjà leur seigneurie, donc ils étaient, par mariage, exact. Ils étaient d'une noblesse très ancienne et reconnue et ont été alliés à des Gastebois qui venaient eux de Guyenne et qui à la Révolution seront tous catholiques et contre-révolutionnaires. Je pense que monsieur de Lastique Saint-Jal, qui comme beaucoup de familles de la... Alors, il ne s'entendait pas très bien avec le seigneur engagiste de Saint-Antonin à la veille de la Révolution, qui était un Maurès de Malartic, comte de Montricoux, qui avait le fermage de la seigneurie ici. Les Maurès de Malartic étaient fidèles et le resteront au trône, étaient une grande famille qui a donné des amiraux, des gouverneurs des îles, qui étaient donc eux aussi très liés avec l'outre-mer français. Donc monsieur de Lastique Saint-Jal ne s'entendait pas avec monsieur de Maurès de Malartic, mais était très très respecté de la population. On le voit bien au début de la Révolution, il est élu commandant de la garde nationale, il est une personnalité respectée. Ils ont d'ailleurs, et c'est pour ça qu'ils ont envoyé du monde partout, passé des pactes fédératifs avec les gardes nationales d'autres coins. Si monsieur de Lastique Saint-Jal a été incarcéré sans être inquiété, c'est parce que de toute façon, à partir de la Terreur, son statut d'ex-noble et de père d'émigrés le rendait suspect de par la loi et que les représentants de la Convention dans le Quercy, des protestants pour la plupart, se sont montrés très très durs vis-à-vis des anciennes familles, des familles de l'ex-noblesse. Mais je pense que monsieur de Lastique Saint-Jal est resté très aimé de la population, même après la Révolution, quoi, voilà. Bon, excusez-moi d'avoir été aussi longue, mais je pense qu'on voit bien les liens entre Caussade et toutes les villes de ce coin du Bas-Quercy.
Merci. Je voudrais dire un mot sur la famille de Lastique, puisque vous en avez tant parlé, parce que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps un de leurs héritiers ici qui parle de l'histoire de sa famille, et au XVIIIe siècle en particulier, comme d'une famille qui était très ouverte aux idées de l'encyclopédie. Il y a d'ailleurs dans la maison qui est en face un exemplaire d'original de l'encyclopédie, donc des idées nouvelles du XVIIIe siècle. Et donc la noblesse, on l'aperçoit peut-être aujourd'hui comme un bloc, mais elle n'était pas totalement du point de vue idéologique. Je ne sais pas si vous dire ce mot, mais... D'autres demandes de parole.
Oui, deux petites questions. Y a-t-il eu l'épisode classique de l'Arbre de la Liberté à Saint-Antonin? Et puis deuxième question, c'est cette société littéraire donc que je ne connaissais pas et qui ouvre ça titille l'esprit. Est-ce qu'on connaît l'inventaire de la bibliothèque, parce que c'est un élément important, savoir qu'est-ce qu'ils lisaient, qu'est-ce qu'ils avaient acheté, puisque les statuts parlent de livres ou d'imprimés, disons. Et là, tout de suite, Thierry Leroy parlait du rôle de l'encyclopédie. Enfin, on est dans le mouvement des idées, c'est des choses qui sont intéressantes. Et est-ce qu'il y a des documents là-dessus dans les archives?
Écoutez, nous avons les statuts auxquels j'ai fait référence, mais je n'ai pas pour le moment, et vous savez que les archives de Saint-Antonin sont en cours de reclassement à Montauban. Mais je n'ai pas trouvé pour le moment de référence à des registres de délibération ou autre de cette société. Donc en réalité,
Vous le voyez, ce que nous en savons, c'est sa fondation, c'est sa, sa fonction. Sur son fonctionnement régulier, pour le moment, nous sommes à court. Mais ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il reste beaucoup de travail à faire pour des chercheurs, pour s'investir dans les archives. Voilà.
Merci. Je voulais juste faire une petite remarque. Vous présentez la population et les municipalités et les élites comme, on dirait, plutôt prudentes pendant la période révolutionnaire et suivistes, en quelque sorte. Lorsque moi j'avais travaillé un peu sur le changement de nom Libreval, ce qui m'avait frappé, c'était justement qu'il y avait, ce qui m'apparaissait, c'est qu'il y avait aussi un sens de l'initiative. Vous avez évoqué le fait que ce n'est que 15 jours après que le gouvernement de Robespierre ait proposé de changer de nom pour les municipalités qui avaient des noms à consonance religieuse, que Saint-Antonin a décidé de changer de nom. Donc 15 jours, c'est très court, sachant qu'il faut à peu près une semaine déjà pour que les infos arrivent de Paris à ici à cette époque. J'ai plus en tête les détails, mais par exemple, moi, ce que j'avais remarqué, c'était que le calendrier révolutionnaire avait été adapté à Saint-Antonin avant qu'il soit adapté au niveau national. Donc, moi, ce que j'avais vu, c'était que nous n'avions pas que affaire à des gens prudents et suivistes par rapport à la Révolution, mais que nous avions des gens qui étaient dans la Révolution, réellement, et qui étaient capables de prendre des initiatives dans le sens de la Révolution. Voilà, c'était une remarque. Merci.
Je peux peut-être réagir à ce qui vient d'être dit. Je ne crois pas que tout ça soit tout à fait contradictoire. Car mon sentiment, si vous voulez, c'est que la Révolution à Saint-Antonin avait commencé avant la Révolution, dans les têtes, dans les esprits, notamment de l'élite, comme on l'a dit, sans doute aussi du clergé, parce que je pense que l'absence totale de réaction du clergé s'explique par une sorte déjà de déprise par rapport à la discipline traditionnelle de l'Église. Et finalement, si vous voulez, il se trouve ensuite dans le mouvement, ce qui ne veut pas dire qu'à certains moments, ils ne font pas de zèle. On peut faire du zèle dans un courant politique sans pour autant, souscrire à des mesures extrêmes. Il n'y en a plus besoin, si vous voulez, parce qu'on n'a pas une opposition très forte à laquelle s'affronter. Voilà. Donc je crois personnellement qu'il y a là une certaine cohérence dans la situation propre à Saint-Antonin et qui n'est pas, comme on l'a vu quand même, la même qu'à Caussade, malgré les liens et malgré les similitudes. Monsieur Badia demande la parole.
Oui, simplement pour revenir à Caussade, s'il y avait une partie de la bourgeoisie riche et très influente, à grande conviction protestante, qui va amplifier ses convictions et peut-être, pour simplifier et régler des comptes, un petit peu, comme l'a dit Catherine, il y avait également, à l'opposé, en face, une noblesse catholique déjà que on pourrait qualifier d'ultra, hein, les Lacombe, hein, à Montes. Je dis ça simplement à la lecture des œuvres de Madame Catherine Langlais. Elle a oublié de le dire tout à l'heure, me semble-t-il, ou alors ça m'a échappé. Hein, des Lacombe, des Guintran, dans l'environnement immédiat de Caussade, d'ailleurs, Lacombe au départ, à Montes, faisait partie de Caussade, et c'est le même qui m'a dit que, j'ai pu le vérifier, s'il avait voulu faire la désunion, entamer la désunion Montes-Caussade, et il a abouti, il y avait le facteur religieux certainement qui devait influencer, dans les Guintran à la Vorette, etc., les de Lesseps au Colombier, ces gens également se sont montrés des catholiques assez radicaux et assez durs, c'est-à-dire que il y a eu une radicalisation en quelque sorte dans les deux camps. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être. Et donc cela a influencé incontestablement une partie de la population, notamment paysanne. Voilà, les petits paysans.
Peut-être, là aussi, je crois que vous mettez le doigt sur une réalité, une différence sensible, parce que ici, en dehors de cette personnalité de la Stig Saint-Jal, avec une seigneurie de Casse qui, pour autant que je sache, n'était quand même pas une seigneurie très rentable. Le château était déjà, je crois, très démantelé et ça ne devait pas être un très gros rapport. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas à Saint-Antonin et dans ses environs proches l'équivalent, effectivement, de cette petite constellation de seigneuries autour de Caussade avec des seigneurs très présents et qui cherchent à en tirer malgré tout un revenu, à maintenir, je dirais, leur rang social en s'appuyant sur la seigneurie. Donc la faiblesse du tissu seigneurial autour de Saint-Antonin fait que en réalité la noblesse terrienne n'est pas très présente et très active. Il faut aller jusqu'à Fénérol, d'un côté, pour trouver... Et ces gens-là ne se mêlent pas tellement à la vie de Saint-Antonin, pour autant que l'on sache.
Très petite question, mais c'est un détail qui m'accroche. Comment se fait-il qu'il y ait 500 indigents dans une ville dont Thierry vient de me dire qu'elle avait 5000 habitants? Est-ce que c'est habituel dans les autres cités du coin?
Non, mais d'abord, c'est une situation de crise. Hein. C'est une situation de crise. Et c'est un afflux qui se produit pendant cette terrible année 88-89. Il ne faut pas imaginer, je pense, que ce soit la situation normale au cours des décennies précédentes. Voilà.
Est-ce qu'on observe la même chose, par exemple, à Montauban ou à Périgueux ou à Rodez?
Écoutez, chaque localité a son histoire. Ce que l'on sait, c'est que les campagnes sont profondément déstabilisées par cette grande crise agricole qui coïncide avec la convocation des États généraux. C'est ce qui a fait le malheur de Louis XVI, si vous voulez, c'est cette concomitance. Alors, elle a pris une ampleur plus ou moins grande selon les régions. Et ici, à Saint-Antonin, effectivement, le document dont parlait tout à l'heure Laure Mézières est tout à fait explicite, je l'ai sous les yeux. Le lendemain, il arriva en cette ville 1 à 1 200 hommes armés, en plus. Alors armés, ils pouvaient être armés avec des faux, avec des fourches, si vous voulez, mais enfin, voilà. Venant de l'Albigeois, de Verfeil, Najac et autres villes voisines. Voilà. Donc il est certain que on a là une sorte de crise rurale qui vient évidemment trouver un exutoire dans la ville. Ou d'ailleurs, on a vu que finalement la municipalité, elle s'en sort bien. Elle arrive à canaliser cette poussée de désespoir populaire rural.
En fait, on observe à cette époque la même chose qu'on observe aujourd'hui quand il y a des crises alimentaires en Afrique ou ailleurs, les gens vont dans les villes, parce que l'aide, elle peut venir que de la ville, en fait. La campagne, voilà. Donc, il y a un afflux, et moi, vu le contexte, ça me paraissait pas énorme. Mais c'est vrai que, voilà, il y avait, en tout cas, à plusieurs reprises, la mairie insiste bien et fait tout, que ce soit au niveau des taxations, de l'achat du blé, qu'elle va ensuite faire moudre, vendre à des prix raisonnables. Enfin, il y a plein de moyens pour aider ce qu'elle appelle les indigents, les nécessiteux. Et il y a énormément dans les archives de textes assez lyriques là-dessus, sur la misère, sur des mots vraiment très émouvants. C'est pas du tout voilà. Alors effectivement, ça fait peur aussi aux notables, mais il y a quand même, on sent une préoccupation du conseil municipal en tout cas.
Et une gestion de crise efficace quand même, comme on dirait aujourd'hui.
Pour la petite histoire, est-ce que vous pouvez dire quelques mots, Laure, sur les prénoms qui étaient donnés aux enfants après la Révolution?
Oui, alors c'est avec la mise en place du calendrier révolutionnaire. C'est vrai que ça a été très rapide sur Saint-Antonin et donc la volonté de changer de nom, d'autant qu'en plus, il y a très peu de communes avec un patronyme religieux qui ont changé de nom. En réalité, ça c'est vraiment, c'est, je crois, 2%. Enfin, c'est un chiffre, une moyenne qui est vraiment tout à fait dérisoire. Et donc, à Saint-Antonin, on s'est précipité. Donc, je rejoins tout à fait Monsieur Folle là-dessus, parce que effectivement, il y avait des gens qui devaient être, qui avaient envie de tout ça. Et d'ailleurs, j'ai eu l'impression que la dénomination de Libreval a été entérinée immédiatement par le conseil municipal. Et comme c'est un nom qui a été repris par pas mal de municipalités, ensuite, on leur a demandé de rajouter Sidehans, Saint-Antonin, etc. Parce que sinon, ils n'arrivaient plus à savoir de quelle ville il s'agissait. Mais voilà, donc ils ont été obligés un petit peu de faire machine arrière. Mais c'est vrai qu'ils étaient très, très volontaires. Donc sur la liste des prénoms, bah en fait ça commence dès novembre 93. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment ça arrive très très rapidement. Donc effectivement avec le calendrier révolutionnaire, donc nous avons des tas de prénoms d'un genre nouveau, que ce soit patriote, républicain, Mercure aussi. Hein, j'ai pas vu Jupiter, mais peut-être. Et puis plein de noms de fleurs, des noms de légumes, donc narcisse, balsamine, charmille, muguet, jasmin, charme, voilà quoi. Scipion, enfin tout un tas de... C'est assez étonnant, quoi. Et on reconnaît les noms de famille de Saint-Antonin, c'est assez marrant. Voilà, donc il y en a eu beaucoup sur Saint-Antonin dans l'état civil. Alors là, ça a été un très grand succès, hein, au niveau des prénoms. Ben voilà, Saint-Antonin. Et dès novembre 93, donc il faudrait que je vérifie la date de la mise en œuvre du calendrier révolutionnaire, mais à mon avis, ils vont au-devant, j'ai l'impression, des demandes de Paris.
Jean-Baptiste Foll.
Juste, je peux donner une information par rapport aux indigents. Donc 500 indigents, ça semble beaucoup, mais effectivement, les récoltes de 87 et de 88 sont exécrables, et c'est une des causes aussi du climat révolutionnaire. Dans les archives, quand j'y étais allé, j'avais vu qu'en 1816, une enquête avait été demandée par la préfecture pour recenser les indigents de Saint-Antonin. Et alors, de mémoire, hein, je ne sais plus si c'est à cette époque-là, on en recense 162 ou 168, c'est-à-dire nettement moins donc qu'à la période révolutionnaire, pour une population à peu près égale. Voilà, pour vous donner l'information, oui. Mais voilà, en se rappelant qu'il y a eu deux récoltes exécrables en 87 et en 88.
Oui, mais c'est pas la même jauge, justement. Ceux de 1816, je dirais, c'est les indigents... normaux, enfin résidents, si j'ose dire. Et les autres, c'est cet afflux qui vient des campagnes. Donc on a deux catégories de populations quand même bien différentes.
Le but de cette enquête de 1816, j'abonde dans votre sens, c'est de donner justement une patente aux indigents de la commune afin qu'ils puissent mendier dans les murs de la commune. Donc c'est effectivement là les indigents proprement dit la commune, et on fait la différence avec les autres.
Oui, juste une toute petite remarque. Je n'ai aucune raison d'intervenir car je ne suis pas d'ici, mais je suis Rochelais. Je suis donc d'une ville protestante, d'une famille partagée entre catholiques et protestants d'une part, républicains et royalistes de l'autre. Je voudrais simplement dire que s'agissant des Rochelais, bien sûr, au moment de la Révolution, la franc-maçonnerie et le protestantisme ont été très importants à la Rochelle. Mais ensuite, les protestants n'ont pas voulu se salir les mains. Et sans vouloir reprendre un schéma binaire comme celui dont vous avez parlé ce matin, par exemple, dans ma jeunesse, les armateurs étaient catholiques. C'est eux qui avaient fait fonctionner la traite des Noirs qui enrichit, était surtout catholique, mais les financiers et les directeurs de banque étaient tous protestants. Tous, il n'y avait pas une. Je veux dire par là que vous voyez comment les choses se sont gérées. C'est tout, c'était une petite remarque.
Il y a une demande de parole de la représentation caussadaise.
Simplement pour le nombre d'indigents à la veille de la Révolution, à Caussade, 400 pour 2400 habitants à l'intérieur, en ville, urbain. Voilà. Et 4000 sur l'ensemble de la communauté. Voilà. 400 quand même, c'est assez important.
Oui, on arrive à des ordres de grandeur comparables. Peut-être un mot encore pour rappeler que si la grande peur ici se révèle une panique sans objet, on n'en dira pas de même forcément partout. Et en particulier dans la zone du Bas-Quercy, à l'ouest de Caussade, justement, la région entre Castelnau, Montratier, Montpezat et Moissac, il y a là alors de véritables assauts qui sont donnés à des châteaux. Il y a des incidents parfois très graves, et la répercussion de ces troubles alimente évidemment plus loin le récit de la grande peur. Je veux dire par là que cette grande peur n'est pas un événement uniforme. Il y a eu des explosions ponctuelles, et ensuite les rumeurs se sont chargées de les grossir et de les transformer éventuellement en paniques, mais des paniques éphémères finalement.
Catherine Langlais.
Alors, je complète pareil pour continuer la comparaison entre ce qui s'est passé à Saint-Antonin et ailleurs. Pour Caussade, on a des comptes rendus de délibération des consuls, puisqu'on était toujours sur le consulat à l'époque. Et contrairement à l'explication que vous donnez, Caussade ne le vit pas de la même manière. Peut-être y a-t-il aussi ici cette dimension de la mémoire des conflits protestants-catholiques qui font que les paysans des campagnes affluent aussi à la ville pour défendre une place de sûreté protestante, ce qu'a été Saint-Antonin également. Donc Caussade, les consuls explicitent clairement ce facteur en disant que 3000 hommes sont venus des communes environnantes pour se porter à la défense de Caussade. Ils ne parlent pas d'indigents, de réfugiés des campagnes. Ils font la même chose qu'à Saint-Antonin. Ils gèrent la crise. Donc ils achètent du pain, du vin, ils font servir dans les cabarets partout. Et les hommes repartent apparemment. Mais chez les Caussadais, le sentiment, c'est qu'on vient défendre Caussade, comme au temps du protestantisme, on défendait Caussade ou Saint-Antonin contre des raids de catholiques. Merci.
Moi, je réagirais volontiers à ce qu'on a entendu depuis le début et à ce que vous avez ajouté, Catherine Langlais, en proposant que si on donne une suite à cette conférence dans notre bulletin, un article, il pourrait être axé sur un parallèle entre Saint-Antonin et une autre commune importante de la région, Caussade. Ce que vous avez dit les uns et les autres fait plutôt ressortir un contraste. Et ça pourrait être intéressant de faire un parallèle. D'autres questions?
Montauban paraît aussi probablement une source très intéressante avec madame, la dame bien connue. Là. Mais est-ce qu'il y a eu la fête de l'être suprême à Saint-Antonin?
Oui, ça c'est la période de suivante. D'après Georges Julien, d'après ce que j'ai entendu sur les émissions, ce qu'il disait, c'était qu'il n'y avait pas eu. Il n'y a pas eu apparemment, en tout cas, on n'a pas raconté. Donc lui soupçonnait qu'il n'y avait pas eu lieu, enfin voilà, ça n'avait pas eu lieu. Parce que justement, il n'en avait pas trouvé la trace. Donc il se disait peut-être qu'ils ne l'ont pas fait. Voilà, tout simplement. Après, je sais pas. C'est à voir, quoi, à creuser encore.
Alors, pareil, je peux faire le complément avec Caussade. On ne trouve pas de traces dans les délibérations municipales de célébration à l'être suprême. On en trouve dans ce qui sont des preuves indirectes, dans des débats retranscrits de la société populaire. On en trouve... Bon, après, au moment de la réaction aristocratique à Montaise, juste à côté de Caussade, mais la situation était la même, où un prêtre défroqué affirme avoir fait retentir X fois le nom de l'être suprême dans le temple de la raison, qui, vous vous en doutez, était l'ancienne église de Montaise. Donc, comme le dit madame, je pense que ça a eu lieu, mais en trouver des traces et des preuves historiques est compliqué.
Merci. Merci beaucoup. Il faut les applaudir. Merci. À bientôt.
Une conférence organisée par la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin en podcast sur tfmradio.fr. Thank you.